Bonjour et bienvenue à la balado Santé et Société. Je m'appelle Kate Bouchard, je travaille à l'Institut Santé et Société de l'Université du Québec à Montréal. Cette balado est l'occasion de discuter d'enjeux de santé depuis plusieurs points de vue et de faire connaître les expertises de nos membres. Bonjour à tous et à toutes au balado Santé et Société. Aujourd'hui, 14 avril 2021, on parlera de la réalité des personnes vivant avec un handicap en ces temps de pandémie avec deux invités, Isabelle Perrin et Catherine Desrivières. Bonjour, mesdames.
Bonjour.
Alors, Isabelle Perrin, pour vous faire une petite introduction, a œuvré comme graphiste pendant près de 20 ans dans différents milieux. Et c'est en 2003, à l'arrivée d'un enfant à défis particuliers, que sa vie prend un virage radical. Alors, par la force des choses, elle découvre le réseau de la santé et le milieu communautaire où elle a fait ses premières armes en défense de droits. Et depuis septembre 2016, elle est la personne ressource au comité des usagers du CRDI TED de Montréal, qui est lié au CIUS du centre-sud de l'île de Montréal. Son rôle dans ce comité est de supporter les usagers et les proches afin qu'ils reçoivent des services de qualité en réponse à leurs besoins. Madame Catherine Desrivières est professeure titulaire au département de sociologie de l'Université du Québec à Montréal. Elle est aussi directrice du doctorat interdisciplinaire en santé et société qui est associé à l'Institut Santé et Société. Elle est détentrice d'un doctorat en santé publique de l'Université de Montréal et aussi d'un post-doctorat en épidémiologie de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale en France. Et elle spécialise en sociologie de la santé. Ses travaux portent principalement sur les liens entre maternité et santé. Elle dirige également l'équipe de recherche pour l'inclusion sociale en autisme. Bienvenue, mesdames. Merci beaucoup d'être là avec nous. Je vais commencer avec une question pour Madame Perrin. Pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que le CRDI TED et votre rôle dans cette organisation?
Alors, le CRDI TED, c'est une vieille appellation, mais qui est restée bien ancrée auprès des familles. Le CRDI TED est devenu la direction DITSA-DP au sein du CIUS Centre-Sud de l'île de Montréal. Le comité des usagers, en fait, est une instance autonome au sein de l'établissement, puis je précise autonome. Je relève personnellement de mon comité, donc on a un détachement par rapport à l'établissement. On est les gardiens, je dirais, des droits des personnes qui ont une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme, qui reçoivent des services, qui sont en attente de services ou qui ont déjà eu des services. Donc, la dernière année a été particulièrement occupée, on peut l'imaginer avec ce qui s'est passé. Pour ce qui est de mon rôle, comme personne ressource, disons que je suis pas la porteuse de bonnes nouvelles. Les personnes qui sont insatisfaites, quand je dis personne, ça peut être autant un usager, une mère, un père, un proche aidant, puis même, je dirais, des responsables de ressources d'hébergement, font appel au comité des usagers pour un paquet de raisons. Ça peut être en lien avec une insatisfaction. Les personnes veulent peut-être faire une plainte. C'est des personnes qui veulent comprendre un petit peu. On parlait du CIUS. C'est une notion qui est encore pas bien intégrée chez nos personnes, qui cherchent un petit peu dans cette structure-là. Donc, c'est d'ouvrir les portes. Je réfère les personnes aux bons endroits. J'essaie de trouver les bons endroits. Je fais aussi de l'accompagnement, que ce soit au plan d'intervention. Lorsqu'il y a des bris de confiance, quand il faut bâtir en fait un lien entre la famille et l'établissement.
Et vous en avez parlé un petit peu de la dernière année. J'aimerais vous entendre un peu qu'est-ce que la COVID a changé dans la vie des personnes que vous représentez. Puis peut-être je ferai la distinction entre la première et la deuxième vague, si c'est pertinent.
Ben oui, c'est tout à fait pertinent. En fait, la première vague, ça a été vraiment un tsunami. Les services ont été complètement arrêtés. Le 13 mars, tout a été stoppé. Tout ce qui s'appelle service à la maison, répit spécialisé, je le précise parce que ça, pour les familles, ça a été très, très, très difficile. Les seules personnes qui ont reçu des services pendant la première vague, ce sont les personnes qui étaient cotées P1. C'est-à-dire des personnes qui présentaient des troubles du comportement ou des troubles graves du comportement. Lors de la première vague, ce qui a été très peu mesuré, j'ai goût de dire pas mesuré, c'est les impacts psychologiques sur cette espèce de, d'abandon là, auprès des familles et des usagers. Ce que j'entendais beaucoup, c'est « et que je suis incompétent ou incompétente partout ». Au niveau de mon travail, au niveau de mon lien avec mon enfant, la première vague, je dirais qu'elle a été quand même assez dévastatrice pour tous. Et malheureusement, il n'y a pas eu de consultation. On n'a pas écouté comment ça s'est vécu chez nos personnes.
Avant de rebondir un peu sur ces questions-là, des différentes conséquences pour les usagers, mais aussi pour les familles, je relancerai peut-être une question à Catherine pour savoir, ben, est-ce que ça vous étonne?
C'est pas étonnant, c'est très inquiétant. En fait, c'est quelque chose pour moi là, qui est tout à fait, je dirais presque attendu, parce que ces familles-là, on le sait, elles sont abandonnées depuis assez longtemps et elles vivent beaucoup de difficultés. Alors, ce qu'on constate avec cet exemple-là des familles d'enfants autistes, c'est que finalement, la pandémie et les mesures liées à la pandémie ont exacerbé des problèmes qui étaient déjà existants. On sait, par exemple, que ces familles-là, puis la recherche le demande depuis très longtemps, vivent énormément de stress, énormément de détresse, énormément d'isolement. Isabelle parlait de la conciliation travail-famille, des problèmes liés à l'école. On sait que les mères vont souvent être dans l'obligation de quitter leur emploi tellement c'est difficile, cette conciliation travail-famille-là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant la pandémie? Mais en fait, ces gens-là ont été un peu abandonnés par le système et se sont retrouvés encore plus isolés, encore plus en stress, en détresse, avec encore plus de difficultés d'accès aux services, quelque chose qui était déjà difficile. Donc, c'est en effet, c'est très problématique. Et moi, ce qui m'étonne moyennement, c'est le fait qu'on le voit dans le système de soins, le système de santé, la réalité de ces familles-là et de façon générale, de tout ce type de problématiques liées au handicap, ça passe toujours en deuxième. Hein? On voit la santé physique, c'est ce qui compte tout d'abord. Puis, on l'a vu avec la COVID. La COVID a pris toute la place et ce qui concerne finalement les autres éléments, la réalité de ces familles-là, ben, ça a été complètement évacué.
Mais justement, la réalité de ces familles-là, parlons-en. Madame Perrin, vous avez été aux premières loges de ce que vivaient ces familles et des personnes qui étaient soit hébergées. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu?
J'ai accompagné, je dirais, plusieurs familles dans un processus de demande d'hébergement temporaire. Puis ça, c'est assez déchirant. Là. Quand une famille est rendue là, c'est qu'elle est là, au bout du processus. Puis c'est... On peut imaginer en pleine pandémie là, faire une demande de placement pour son enfant. Tout ça se fait à contre-cœur. Les familles n'ont pas été en contact avec leur enfant pendant des mois. Et moi, ce qui m'a fascinée dans la couverture médiatique, c'est qu'on a soulevé ce même élément-là qui se vivait dans les CHSLD. Mais il n'y a personne qui s'est penché sur nos personnes qui ont une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme. Les parents n'avaient pas accès à leur enfant. Puis souvent, les parents, tous les week-ends, allaient chercher leur enfant, les amenaient à la maison. C'est pas pour passer la fin de semaine, c'est pour aller au resto. Fait que tous ces repères-là ont été... perdu. Ça a été une période de grande détresse et de souffrance pour beaucoup, beaucoup de familles.
On a parlé précédemment de ressources intermédiaires et de leur rôle dans cette détresse. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Parce qu'on entend que c'est des ressources intermédiaires privées qui sont liées au CIUS, mais qui ne fonctionnent pas nécessairement tous de la même façon. Est-ce que vous pouvez nous en parler pour les gens qui ne connaissent pas trop le fonctionnement? Comment ça fonctionne? Comment ça se fait qu'il y a des gens qui ont été fermés comme ça dans des établissements sans communication avec leurs proches?
Premièrement, il y a les ressources intermédiaires qu'on appelle RI et il y a aussi les RTF qu'on appelle ressources de type familial. Ce sont des promoteurs privés qui gèrent ces ressources-là. Ils sont en entente de service avec l'établissement. Ils ont des comptes à rendre, mais on est en pleine pandémie. Puis je ne veux pas dédouaner qui que ce soit en disant ça, là, mais ce que les familles ont vécu, je dirais, ça a été à géométrie variable. Il y a des familles qui ont pu voir leur enfant. Il y a eu énormément d'interprétations des directives de santé publique, des fois pour le mieux et des fois pour le pire. Donc, les familles étaient quand même au courant de ce qui se passait dans les ressources de la rue voisine et il y a eu énormément de frustration. Mais pour revenir au fonctionnement de ces ressources-là, actuellement, il y a 2000 personnes dans notre SUS, 2000 personnes qui ont une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme qui sont hébergées dans ces milieux-là. La majorité d'entre eux sont sur curatelle publique, mais beaucoup de familles sont toujours dans le coup, sont présentes et régulièrement présentes. Il y a beaucoup de familles qui ont réalisé pendant cette pandémie-là à quel point c'était discutable tout ce qui est privatisation de l'hébergement pour nos personnes vulnérables. Et c'est drôle parce qu'on le disait en pandémie, on l'a dit pour nos personnes âgées. Et les familles l'ont clairement réalisé, à savoir, est-ce que c'est une bonne idée de confier des personnes vulnérables dans un modèle de logique marchande des familles qui ont constaté leur enfant déconditionné après 4 mois parce qu'il n'y avait pas d'activité au sein de la ressource. Les familles disaient à quel point il ne se passait pas grand-chose, qu'il y a eu énormément de pertes d'acquis, il y a eu beaucoup d'hospitalisations aussi, des jeunes qui se désorganisent. Ben, moi, à chaque fois, quand je dis une désorganisation, est souvent liée soit à des problèmes physiques, soit à des problèmes psychologiques et on peut comprendre que à ne rien faire, à ne pas être occupé, ben tu peux en effet développer des problèmes de comportement, c'est pas surprenant. Alors le réflexe naturel dans ces milieux-là, c'est d'appeler l'ambulance puis d'envoyer la personne à l'hôpital. Puis ça, les hospitalisations, ça aussi oui. Ça pas été simple, ça n'a pas été facile pour personne.
On va en parler prochainement. Je voulais peut-être juste demander à Catherine une réaction avec ce qu'on apprend de ces ressources intermédiaires et de la façon que les personnes ont carrément été abandonnées finalement. En tout cas, c'est certainement variable, mais on peut quand même entendre qu'il y a des personnes qui ont été abandonnées.
Il y a plusieurs choses sur lesquelles je peux réagir effectivement par rapport à la recherche. D'abord, la question qui a été soulignée par Isabelle sur le fait que les familles n'étaient pas consultées par rapport aux décisions qui étaient prises, que ce soit par rapport au système public ou privé. Je pense que dans les deux cas, bon, il y a des enjeux liés au système privé, effectivement, mais il y a aussi le fait que, de façon générale, les décisions qui sont prises, quel que soit, je dirais, le système, sont souvent prises en fonction du contexte institutionnel davantage que la parole ou du point de vue des familles. Hein. On a eu beaucoup ce discours autour de l'usager au cœur des services et des réformes, mais malheureusement, ce que démontre la recherche depuis longtemps, c'est que les systèmes s'organisent en moment de crise en fonction des besoins du système. Et c'est ce qui fait un peu que finalement, le réflexe, par exemple, des milieux d'hébergement que vous soulignez, a été de dire, bon, mais on va tout simplement faire le plus simple pour nous, c'est-à-dire confiner tout le monde, les empêcher de voir leur famille, qui sont des décisions qui peuvent faire un certain sens par rapport au système, mais qui, sur le plan de la vie des gens, de leur situation, de leur santé, de leur détresse, évidemment, ont des conséquences absolument immenses. L'autre élément plus global, c'est vraiment la question des inégalités par rapport aux mesures, en fait. Là, il y a des exemples en milieu d'hébergement, mais il y a toutes sortes d'autres exemples. L'État, en fait, lorsqu'on choisit de faire des décrets, on doit normalement tenir compte de ces enjeux d'inégalité lorsqu'on fait une loi ou lorsqu'on fait un décret ou toutes les décisions qui sont prises par l'État devraient tenir compte des personnes les plus fragiles et de ces enjeux d'inégalité. Et on a vu que pendant la pandémie, malheureusement, ça a très peu été le cas. Et l'impression globale qui se dégage un peu dans les médias partout, c'est que ben, comme la mesure elle est pour tout le monde, elle a les mêmes effets pour tout le monde. Mais c'est absolument pas le cas. Et on le voit avec cette situation-là, que de dire aux gens, écoutez, confinez-vous, ne voyez personne, ou alors on ferme les services ou on ferme les écoles. Les effets de ça sont sont complètement différents si on est une famille d'enfants avec des besoins particuliers, si on est une famille avec une personne autiste adulte hébergée, par exemple, ou si on est monsieur, madame tout le monde qui a des enfants typiques, par exemple. Et ça aussi, je pense que c'est un enjeu qui doit interpeller les politiques publiques, la recherche, parce qu'il est temps de mettre de l'avant, là, après un an de pandémie, ces enjeux-là d'inégalité.
Oui, qui coûte très cher à notre société, finalement. Vous avez mentionné, Madame Perrin, le thème des hospitalisations. J'aimerais ça qu'on en parle un petit peu parce que ça a été assez dramatique pour les personnes qui ont été hospitalisées. Pouvez-vous nous en parler un petit peu?
Bien, écoutez, moi, cette semaine, une maman m'écrivait, son fils en était à sa 5e hospitalisation. C'est pas rien, les hospitalisations pour une personne qui a des besoins particuliers, non-verbal, qui n'arrive pas à communiquer. Ça aussi, il y a eu quand même beaucoup de géométrie variable. Il y a des mamans, puis je dis maman parce que j'ai souvenir que c'est une maman qui m'avait dit ça, qui s'est retrouvée dans un hôpital où il y a eu, pour adultes, il y a eu énormément de compréhension et on a accepté qu'elle accompagne son fils. Dans d'autres cas, c'était strictement interdit. J'avais au bout du fil des parents sur les nerfs comme c'était pas possible. Parce que ces personnes-là, à la base, ont des besoins particuliers. Parce que souvent, quelqu'un qui a une difficulté à communiquer a besoin physiquement de quelqu'un. Ce n'est pas un appareil, c'est pas un picto. Il faut que maman soit là, il faut que papa soit là. Fait que j'ai eu des histoires d'horreur qui donnent des frissons. Là. C'est des expériences traumatisantes pour ces personnes-là.
Ça me fait vraiment réagir ce qui est donné comme exemple par rapport aux personnes hospitalisées. Et un autre concept, je pense, sur lequel on doit réfléchir, c'est l'importance du soutien social puis du soutien qui est donné par les familles. On le sait, moi, je travaille sur la question des familles d'enfants autistes. Ces enfants, qui peuvent être adultes aussi, évidemment, leur principale source de soutien, c'est très souvent les familles, en tout cas en ce qui concerne l'autisme et surtout sur les personnes mineures. C'est tellement important de pouvoir avoir accès à ce soutien-là. Et encore une fois, la pandémie, ce qu'elle a montré, c'est qu'avec des mesures qui semblent encore une fois uniformes, elles ont eu pour effet de couper le soutien de manière plus exacerbée chez les personnes vulnérables comme les personnes autistes. Je pense qu'on a minimisé l'importance du soutien, que ce soit pour les familles et pour les personnes autistes et les personnes avec déficience intellectuelle, sans doute, parce que tout simplement, la référence qu'ont les politiques, les personnes qui font les politiques publiques, c'est toujours la référence de la personne qui n'est pas autiste, qui n'a pas une déficience intellectuelle, qui a des enfants typiques et pour qui, finalement, les mesures et cette coupure de soutien est soutenable ou en tout cas davantage soutenable, même si c'est difficile pour tout le monde.
Et on peut comprendre qu'à la première vague, tout était un peu en désordre. Il y avait une réaction qu'il fallait faire en toute urgence. Mais maintenant, on est un an passé, cette première vague. On pourrait se poser la question, est-ce que la COVID a le dos large pour justifier tous ces enjeux évoqués?
J'aurais le goût de dire oui. Ça m'évoque. C'est certain que, bon, actuellement, les services ont repris. Ça a pris quand même, c'est en décembre que les services ont repris, mais je dirais, les services ont été très morcelés. Hein. Il y a des gens qui avaient un service au niveau du socio-professionnel, donc qui fréquentaient un milieu de travail 5 jours semaine, et là, qu'ils le fréquentent un bloc de 4 heures seulement. Le ratio réduit, c'est sûr, n'a pas aidé. Mais nous, on a bien hâte de voir à la fin de la pandémie si les choses vont reprendre leur cours. Mais pour l'instant, tout est là. Tout ce qui est épisode de service, ben, je pense qu'on est très au fait que c'est pas du tout adéquat par rapport aux besoins des personnes et des familles. Les familles sont, une fois de plus, laissées à eux-mêmes pour généraliser, en fait, les interventions. Il y a beaucoup, je dirais, de déresponsabilisation de l'établissement face aux familles. Puis on s'entend comprend que les familles sont très, très fatiguées là, actuellement. Il n'y a pas eu de répit spécialisé pendant les premiers mois. Les répits spécialisés ont repris, puis encore une fois, à ratio très, très réduit. L'été dernier, il n'y a pas eu de camp spécialisé. Les familles qui envoyaient leurs enfants deux, trois semaines pour souffler un peu, pour se remettre un peu d'aplomb, pour mieux reprendre pour l'automne, n'ont pas eu accès à ça. Fait que il y a une grande fatigue, il y a une très grande fatigue là, rendue à la troisième vague. Fait que j'ai hâte de voir la suite des choses. T'sais, qu'est-ce qu'on va faire? Où est-ce qu'on s'en va? Comment on va évaluer? On va évaluer nos familles, où est-ce qu'ils en sont? Nos usagers aussi, il y a eu énormément de pertes d'acquis, là, on ne se le cachera pas.
Justement, parlons-en de cette post-pandémie. Madame Desrivières, est-ce que je peux vous relancer dans cette direction-là? Comment est-ce qu'on peut imaginer le post-pandémie?
Alors, ce que je peux faire, c'est des souhaits. Malheureusement, mes prédictions ne sont pas nécessairement extrêmement positives, mais je pense qu'on peut faire des souhaits. Je pense qu'il faut faire un bilan et je pense qu'on est, je dirais qu'il y a, le long terme, mais il y a même le court terme. C'est-à-dire que je pense qu'on devrait apprendre tout d'abord socialement à réfléchir en rendant visibles les réalités de ces personnes-là parce qu'elles sont invisible. Moi, je suis toujours estomaquée du fait que dans toutes les conférences de presse qu'il y a eu, toutes les mesures qui ont été mises en place, jamais la situation des familles d'enfants handicapés ou des personnes handicapées était mise de l'avant, jamais, alors que leur réalité est quand même quelque chose qui était très important. Puis finalement, les impacts des mesures étaient différents. Donc, jamais, par exemple, quand il y avait des fermetures d'écoles, il était question des écoles spécialisées. La question des proches et des proches aidants a été mise de l'avant, alors que souvent, les décrets le permettaient. Il y avait eu toutes sortes d'exceptions. Les décrets permettaient, par exemple, que les personnes puissent recevoir un certain soutien. Les décrets permettaient que, par exemple, les personnes autistes ne portent pas le masque et tout ça, mais ce n'était jamais publicisé, ce qui fait qu'on rend toujours, encore une fois, invisible cette réalité-là, ce qui a des répercussions sur les gens, parce que quand il y avait des personnes autistes, par exemple, qui ne portaient pas le masque, elles étaient stigmatisées, ça pose un ensemble de problèmes. Donc ça, je pense que c'est mon premier souhait, c'est de rendre visible cette réalité-là et de faire en sorte que les gens, lorsqu'ils prennent des décisions, que ce soit dans les institutions, que ce soit les politiques publiques, que ce soit les décrets, tiennent compte de cette réalité-là. Pour l'avenir, je pense qu'il faut vraiment essayer au moins de sauver les meubles là, en faisant en sorte que la pandémie et l'après-pandémie ne mènent pas à davantage de coupures dans les services, qu'au moins ça revienne au minimum de ce qu'il y avait précédant la pandémie, qui était déjà pas suffisant. Donc ça, c'est un deuxième souhait, en tout cas. Et pour l'avenir, je pense qu'il va falloir vraiment mettre davantage de ressources, parce que si on pense aux enfants, et notamment aux jeunes enfants qui ont vécu la pandémie, des enfants qui ont des troubles de développement maintenant, là, qui ont 2, 3, 4, 5 ans, dans leur vie à eux, cette tranche de pandémie, c'est une période énorme dans leur vie. Et les répercussions par rapport à leurs habiletés sociales, parce que l'autisme, c'est ça, par rapport à tous les troubles de phobie, d'anxiété, de rigidité, il va falloir mettre une ressource supplémentaire pour tous ces enfants-là, les déficits liés aux problèmes à l'école, au manque d'école, à l'école à distance qui a été des répercussions toujours négatives, mais encore plus chez ces enfants-là. Donc, je pense que socialement, il va falloir, je le souhaite, je ne peux pas le prédire, mais vraiment se mettre à donner les ressources pour que tous ces dégâts qui ont été faits par rapport à la pandémie, je pense au langage, la question, par exemple, des éducatrices qui ont eu des masques. Récemment, ils ont réussi à avoir des masques avec des fenêtres, mais pour un enfant qui a des troubles de langage, de ne pas voir une bouche pendant de la journée, c'est très problématique aussi. Donc, je pense qu'il y a des ressources supplémentaires qui devraient être mises pour nos enfants en difficulté.
Mais merci beaucoup, mesdames, d'avoir participé aujourd'hui au balado Santé et Société. Madame Perrin, qui est personne ressource au comité des usagers au CRDI TED de Montréal, et Catherine Desrivières, professeure titulaire au département de sociologie de l'UQAM. Merci beaucoup.
Merci.